Alors, on va faire ça et ensuite changer.
Parce que je déjà des gens dans en bas, je sais
pas,
Oui, bonjour, vous m'entendez? Les gens qui sont connectés sur Link?
Oui, oui, on s'est entendu depuis le début.
Bonjour, Amanda.
Vous avez vu, on a un peu pataugé, mais là, c'est bon. On va pouvoir commencer. Merci.
D'accord, mais je parle assez fort.
On commence ici une ou deux minutes quand tout le monde sera arrivé dans la salle. Bon, alors on va commencer. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, d'être venu, d'être présent, et merci à tous ceux qui sont donc connectés au réseau Link. pour donc entendre cette conférence, cette présentation sur la pratique de la pleine conscience, donc dans le cadre de la semaine du Wellbeing at Work. J'avais cherché un thème qui pourrait être intéressant à traiter, et comme je pense que nous sommes tous confrontés à un niveau de stress qui est plus ou moins important, mais qui peut être problématique de temps en temps, tant dans la vie professionnelle que personnelle, il semblait que la pratique de la pleine conscience, ça peut être une technique, un biais pour justement apprendre à gérer son stress et avoir le moins d'effets délétères possible. Voilà, donc j'ai fait appel à Madame Pélisson, Sonia Pélisson, qui est ici présente, qui est donc enseignante en pleine conscience, enfin dans la pratique de la pleine conscience, qui a été formée à l'université du Massachusetts aux États-Unis, puisque comme je vous l'avais mis dans le mail de présentation, la pleine conscience c'est une technique qui a été mise en place au départ par un médecin américain. Et que le berceau, hein, on va dire pas le berceau, c'est voilà, c'est les États-Unis et cette université du Massachusetts. Voilà, très bien. Voilà, donc juste la conférence sera en deux temps, un temps de présentation, même si vous pouvez toujours poser des questions, il n'y a aucun souci. Et puis donc de 13h à 14h et de 14h à 14h30, un temps plus dédié à l'échange, ceux qui ont des questions à poser, qui veulent échanger plus particulièrement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je laisse maintenant la parole à Madame Pélisson qui va se présenter.
Merci, merci à tous d'être là et puis merci aux gens qui sont connectés sur ligne, si j'ai bien compris. Il y a donc beaucoup plus de monde que les gens que je vois dans la salle. Et puis merci à Emmanuel de m'avoir contacté, de faire cette démarche que je trouve intéressante, et à Pierre Loriot de l'avoir accompagné et de m'avoir permis de faire cette conférence ici. Donc je suis très heureuse. Bonjour à toi, c'est juste, je vais raconter une anecdote, je pense que Emmanuel Arnaud m'en voudra pas, mais quand elle a vu mon slide, elle a dit « Ah, bonjour à tous !» Et je me suis dit « Ça, c'est vrai, à tous, voilà, on voit qu'on est bien formaté dans l'entreprise, et je trouve que c'est intéressant. J'ai bien fait d'écrire ça comme ça, parce que j'avais hésité, donc en fait, je trouve que ça a du sens, et ça me plaît bien. Voilà, moi quand on m'a dit que j'allais faire une intervention ici, je me suis un peu renseignée sur l'entreprise et je connaissais le groupe Atos, je pense, enfin, quand on est dans le monde de l'entreprise et quand on s'intéresse un peu à l'économie, qui ne connaît pas le groupe Atos, ce que je ne savais pas forcément, c'est que vous étiez en CAC 40 en 2017 et qu'avant il y avait eu des résultats avec des doublements de taille du groupe en 8 ans sans endettement, des résultats records en 2016, donc ça veut dire que vous êtes hyper performant. Et ça ne se fait sûrement pas sans effort de votre part, ça ne se fait pas sans les hommes, et donc il y a sûrement forcément un peu de stress derrière, parce que pour obtenir des résultats, il faut du stress, et le stress c'est quelque chose qui permet d'avancer et de faire des tas de choses. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'après ça devienne un mode de fonctionnement qui soit permanent, et c'est là que ça devient problématique, et c'est là qu'effectivement on peut avoir besoin d'avoir recours à des pratiques comme celles que je vais vous exposer pour éviter de souffrir trop de ce mal. Alors brièvement, vous avez déjà vu la slide 50 fois, donc je ne vais pas, je suis pas le sujet, hein, mais juste pour vous situer, je suis quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. J'ai fait un master en gestion, executive MBA. J'ai travaillé pendant 25 ans dans l'assurance. J'ai fait du management à tout niveau, aussi bien en compagnie que chez les courtiers. Donc voilà, une vision assez large de structure petite à grande. Donc ça me permet aussi de pouvoir comprendre ce que vous vivez dans le cadre d'une entreprise, même si j'ai pas travaillé dans un groupe comme le groupe Atos. J'ai travaillé dans une compagnie anglaise où on avait, je pense aussi, des modes de fonctionnement un peu similaires et des histoires d'informatique comme ça qui étaient exactement les mêmes. Ensuite, j'ai découvert la mindfulness alors un peu par hasard, par le biais d'une amie qui est psychiatre et qui me racontait son histoire personnelle. Elle avait vécu un cancer. Et un jour, elle m'a dit cette phrase qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit la pleine conscience m'a sauvé la vie. Quand on vous dit ça, moi, ça m'a. Surtout, c'est quelqu'un qui est vraiment pragmatique, c'est quelqu'un qui est culture du résultat, donc pas quelqu'un d'ésotérique du tout. tiens, c'est intéressant. J'ai commencé à me documenter. J'ai commencé à pratiquer un peu avec l'aide d'applications, de CD, de bouquins que j'ai achetés. Et puis un jour, un peu par hasard, on se dit qu'il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, je voulais faire un peu plus. Et puis j'appelle un professeur de MBSR, vous verrez plus tard après que c'est la formation pour pratiquer la pleine conscience. Je l'ai appelé, puis il me dit, bah, j'ai un cycle qui démarre demain, c'est un cycle de 8 semaines. Je me suis inscrite. Et puis, bon, les trois premières semaines, j'étais pas forcément la bonne élève, donc je faisais pas forcément les exercices, etc. Et puis, j'ai commencé à avoir un changement à intervenir sur moi. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est quand même étonnant. Donc, peut-être si je travaille un peu plus, le changement va être plus grand. Et j'ai pas le temps de dire que ça a vraiment changé ma vie. Alors, ça m'a changé ma vie à moi, et puis ça a changé la vie de mon entourage, parce que beaucoup moins stressée, je suis beaucoup plus tolérante, et mes enfants seraient les meilleures personnes pour parler de la pleine conscience, parce qu'ils sont tous ravis que je pratique la pleine conscience, parce que ça a aussi changé la leur. Voilà. Et du coup, bah, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est tellement génial, et je vous le dis comme je le pense, tellement génial, j'ai envie de partager ça. Et moi qui n'avais jamais eu envie de faire de formation ou d'enseigner quoi que ce soit, j'ai vraiment eu envie de partager cette pratique parce que je pense que ça peut apporter tellement bien. On ne peut pas garder ça pour soi tout seul. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Et donc, du coup, j'ai suivi cette formation à l'Université de médecine du Massachusetts, même si j'ai aucune formation de médecin, mais ils prenaient les gens voilà, sur dossier en fonction de ce qu'on expliquait, ce qu'on avait envie de faire. Et donc, j'ai suivi une formation. Pendant un an, j'ai fait des allers-retours Bordeaux-Boston pour me former. Et donc, l'année dernière, j'ai obtenu la qualification pour enseigner à la pleine conscience. Voilà. Donc, on est dans un cadre tout à fait laïque, un cadre scientifique. Moi, je suis la cartésienne par excellence. Donc, s'il n'y avait pas eu cette potion scientifique et médicale, je pense que j'y serais jamais allée. C'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a rassurée par rapport à la pratique. Et ça a donc été une grande aventure. Aventure qui, donc, mindfulness en anglais, pleine conscience en français. J'emploie l'un et l'autre des deux mots, donc, voilà. Petite question, il y a des gens aussi qui pratiquent déjà la pleine conscience ou qui connaissent ou pratiquent, d'accord, depuis longtemps? Non. Belle pratique. D'autres personnes? Et des gens qui...
Moi je suis chez moi là, donc vous ne verrez pas dans la salle. Je commence. Tout doucement.
D'accord.
Ton méditation, une conscience, etc.
D'accord. Et vous commencez avec un support quelque chose
Oui, le livre de Christophe André.
J'ai pas compris. Avec le
Je suis en train de lire le livre de Christophe André.
D'accord, le livre de Christophe André.
Ok. La méditation, et donc effectivement, il aborde aussi la pleine conscience.
Oui, 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 tout à fait. Ben, c'est un excellent support. Vous aussi, même schéma. D'accord. Et il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler du tout, par contre. D'accord. Très bien. Alors, ce que je vous invite, c'est sur un mesure, si je dis quelque chose qui vous paraît bizarre, vous ne comprenez pas, ou si vous voulez un complément, vous me dites, même si après on a un temps d'échange, je n'ai pas forcément envie de vous balancer les infos, et voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous m'interrompez, qu'il y ait un peu d'interactivité, je pense que ça sera plus agréable pour tout le monde. Alors, j'ai pas le plus de la personnalité du tout, mais il y a quand même quelqu'un dont il faut parler, c'est Jon Kabat-Zinn. C'est donc un professeur de médecine à l'université de médecine du Massachusetts. C'est quelqu'un qui pratiquait la pratique de la pleine conscience dans le cadre du bouddhisme. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des effets de la pleine conscience sur le corps, sur les personnes. Et il a eu l'idée d'extraire donc de sa pratique, d'enlever tout ce qui pouvait être religieux, si tant est que le bouddhisme est une religion, enfin pas plutôt d'une philosophie, enfin tout ce qui pouvait ne pas rentrer à l'université de médecine des Américains, parce que ça c'était juste pas possible. Et donc il en a fait une pratique qui est vraiment une pratique totalement laïque. Et il a créé en... Le slide ne passe plus. Donc en 1979, ça va venir, ce qui s'appelait à l'époque la...
Là
la clinique du stress.
Ça y est, ça y est. C'est bon.
Non.
Là, c'est bon.
Oui. Voilà.
Donc, juste, pardonnez-moi, non, mais pas de stress, pour les gens donc, qui posent des questions sur Link par écrit, je ne peux pas répondre. Alors là, il y a une question qui vient d'être posée, je vais la relayer à l'oral, mais le mieux, ça serait quand même que vous posiez vos questions à l'oral, parce que voilà, je ne peux pas à la fois écrire sur Link et on ne peut pas continuer la conférence avec PowerPoint. Désolée.
Voilà, les limites de la technologie. Oui, donc il a créé un point qui au départ s'est adressé à des gens qui étaient stressés, comme on peut le douter, notamment toutes les personnes qui avaient fait des dépressions. Et donc ils ont commencé des expérimentations dans cette clinique du stress qui au fil du temps est devenue le CFM, Center for Mindfulness, et qui a vraiment été un lieu d'expérimentation où de nombreuses études scientifiques ont démarré. Et ça a ensuite été repris dans plein d'autres universités. Hein. On a Harvard, MIT, Yale, Stanford. Toutes les universités de médecine de renom ont fait des études et ça continue. Il y a plusieurs centaines d'études sur le sujet. L'année dernière, ça a été le sujet dans le domaine de la psychologie qui a été le plus étudié par les médecins. Parce que grâce aux IRM, ça permet vraiment d'avoir une vision sur le fonctionnement. Alors, on peut voir sur les comportements, mais aussi sur le fonctionnement physique des personnes, l'impact de la pratique de la pleine conscience. Et aujourd'hui, on a plus de 800 centres hospitaliers dans le monde qui offrent cette pratique à leurs patients, mais aussi au personnel de soins, parce que le personnel de soins dans les hôpitaux, ils sont hélas confrontés au stress aussi. Et puis, de plus en plus, ça s'est développé dans le monde des particuliers. Donc aujourd'hui, on a des enseignants comme moi qui proposent des formations aux particuliers. Donc on peut venir à titre personnel. Il y a des formations qui sont faites de plus en plus dans l'entreprise. On a Google et Apple qui ont été les pionniers aux États-Unis. Depuis, ils ont été suivis par un grand nombre d'entreprises. Et en France, ça commence à se développer aussi, puisqu'on a Sodexo qui a mis en place tout un programme, et derrière, des compagnies d'assurance, des banques, pour l'instant plutôt des entreprises de taille assez conséquente, qui commencent, elles aussi, à offrir des programmes de pleine conscience, alors que ce soit des formations un peu longues ou sous forme d'ateliers, mais en tout cas, la pleine conscience rentre de plus en plus dans le monde de l'entreprise, et vous en êtes la preuve. On va retrouver ça aussi de plus en plus dans les écoles. En France, on a l'éducation nationale qui a des classes pilotes dans lesquelles les enfants pratiquent la pleine conscience tous les matins. Et on a remarqué que sur les enfants, ça avait effectivement des résultats assez spectaculaires. Les moyennes de classe augmentent à peu près d'un à deux points pour les enfants qui pratiquent la pleine conscience. Et les enseignants montrent aussi qu'il y a un niveau de relation qui est bien meilleur. Beaucoup moins d'agressivité, beaucoup moins d'énervement. Les enfants apprennent à gérer leurs émotions et ça se ressent sur tous les niveaux. Et puis ça se fait également dans les prisons. C'est vrai que c'est aussi un endroit où il y a un gros stress et donc il y a des programmes dans les prisons qui sont développés. Alors c'est très fréquent aux États-Unis. Je crois que ça commence tout juste en France. On a pris un peu de retard, mais ça va venir. Alors, la définition, être en pleine conscience, c'est quoi? Alors, j'ai pris la définition de Kabat-Zinn, parce que, somme toute, c'est quand même le père, donc je pense que sa définition est vraiment intéressante. Il dit, c'est porter délibérément son attention sur le moment présent, instant après instant, et sans jugement de valeur. Et dans cette phrase, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. C'est délibérément, ça veut dire qu'on est dans une volonté de faire quelque chose. Donc, pour pratiquer la pleine conscience, il faut le vouloir. On ne pratique pas la pleine conscience par hasard. Ensuite, il y a le moment présent. Donc vraiment, la pleine conscience, c'est se recentrer sur le moment présent. Donc on ne va pas du tout, parce qu'on parle de méditation de pleine conscience, la méditation est un des exercices qu'on pratique quand on pratique la pleine conscience, mais ce n'est pas une méditation dans laquelle on va partir dans des idées ou des réflexions. C'est vraiment quelque chose qui est d'être dans l'instant présent. Donc on ne fait que constater ce qui est là maintenant. Instant après instant, et sans jugement de valeur. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on travaille beaucoup dans les formations la pratique de la pleine conscience, c'est la notion de ne pas avoir de jugement de valeur. Les choses sont comme elles sont, et on essaye d'oublier qu'elles puissent être bien ou mal. Elles sont, point. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, et qui facilite beaucoup après les rapports aux autres, les rapports aux événements. Est-ce que ça vous... c'est clair pour l'instant, Emmanuel, si vous avez...
J'ai une question, ça doit être un connaisseur, qui demande donc si c'est en relation, ta pleine conscience, avec Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent.
Alors, c'est pas exactement en relation, mais clairement, j'ai lu Eckhart Tolle. Parce que quand on pratique la pleine conscience, effectivement, les écartolés sont très très proches. Après, c'est pas tout à fait la même école, mais il y a une vraie proximité de pensée et il n'y a pas de désaccord entre écartolés et Kabat-Zinn et donc la pratique de la pleine conscience telle qu'elle a été développée par CFM. Donc on est vraiment sur voilà, sur des idées qui sont similaires et qui sont parfaitement complémentaires. Pour résumer ce que je venais de vous dire, être dans l'instant présent, c'est, vous voyez, quand on est au bureau et qu'on a tous ces dossiers, etc., et qu'on prend une seconde pour se rendre compte qu'il y a un rayon de soleil et que notre réalité, c'est aussi celle-là. C'est, voilà. Donc ça, c'est vraiment un dessin, je trouve, qui illustre bien ce que peut être la pleine conscience. C'est, j'ai tout ça, et dans ma tête, j'ai un rayon de soleil, et dans ma tête, j'ai le rayon de soleil aussi. Hein, un rapport entre ce que j'expérimente et ma réalité concrète. Alors, à qui ça s'adresse? Eh bien, c'est bien parce que ça s'adresse à tout le monde. Donc, ça s'adresse aux hommes, aux femmes et aux enfants. Il n'y a pas d'impossibilité. Moi, au départ, quand on m'a parlé de la pleine conscience, je me disais, parce que je n'y arriverai jamais, parce que j'ai toujours plein d'idées dans la tête. On sent que ça ne va pas du tout être un truc pour moi. Et bien, justement, quand on a plein de trucs dans la tête, déjà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un peu le cas de tout le monde, ou presque. Alors après, peut-être avec des niveaux d'activité différents, mais on en a aussi au fil de la journée. Mais en fait, voilà, le bouton stop n'existe pas. Moi, j'avais un peu dit à mes parents, ouais, il y a un défaut de conception, le bouton stop. Il n'existe pas, voilà. Donc après, la pleine conscience, ça peut être un moyen de faire une pause, mais de toute façon, les idées, les pensées, elles seront toujours là. Mais on va apprendre à vivre avec, on n'est pas obligé de les suivre systématiquement, et c'est ça qu'on va apprendre dans la pleine conscience. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. C'est vraiment, je pense que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique où on ne peut que réussir. Et si on pratique, et plus on pratique, et plus les bienfaits de la pratique vont se faire sentir. Donc ça n'est, il suffit de se dire je le fais. C'est aussi simple que ça. Ah, mais vous inquiétez pas, j'ai pas de problème. Voilà, alors après, pour rentrer un peu plus en détail de ceux à qui ça s'adresse, ça s'adresse effectivement à tous les gens qui expérimentent le stress. Hein, donc à partir du moment où on est dans le monde du travail, je crois qu'on expérimente le stress. Ceci dit, je crois que quand on est à la maison, quand on a des enfants, par exemple, moi j'ai 3 enfants, quand je rentre à la maison, c'est pas parce que je travaille plus que le stress s'éteint. Hein, je ne sais pas, même un petit regard, pas chez vous, mais voilà, le conjoint peut être aussi une source de stress, ou l'absence de conjoint, ou les voisins, enfin. Donc voilà, le stress, malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter assez facilement. Donc si on en ressent les effets, après la difficulté, des fois, c'est un peu de les ressentir, parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est un peu tendu à cause d'un stress global. Mais quand on s'en rend compte, c'est vrai que ça permet de mettre des choses en place pour l'éviter. Pour ceux dont l'esprit bavarde sans cesse, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui parle tout le temps, les ruminations. Alors, je ne sais pas, vous avez eu un entretien, ça ne s'est pas bien passé, et puis toute la journée, vous allez vous refaire l'entretien. Puis j'aurais pu dire ça. S'il avait dit ça, j'aurais dit ça. Et puis ça revient, puis on boucle. C'est ça la rémunération. Je pense qu'il y a des gens à qui ça parle. Moi, c'était un truc que je pratiquais super fréquemment, pour ne pas dire tout le temps, mais j'avais vraiment l'impression que c'était hyper fréquent. Et alors, la pleine conscience a arrêté totalement les ruminations. Et ça, c'est juste, j'ai envie de dire magique. Bon, c'est pas magique, hein, ça s'explique bien par la science. Mais moi, je suis pas médecin, je trouve ça assez génial. Après, il y a tous les gens qui ont tendance aussi à être un peu trop dans le passé. Donc, c'est vrai que, un peu comme ceux qui ont mis, on est beaucoup sur des regrets, des remords. Et bien, pendant qu'on est dans le passé, qui malheureusement est terminé, ben, on n'est pas dans le présent. Et du coup, il se passe des choses dont on ne profite pas. Et c'est la même chose pour ceux qui sont dans le futur. Quand on passe son temps à se projeter, à imaginer ce qui va se passer, à faire des scénarios, pendant des scénarios qui souvent d'ailleurs ne se réalisent pas, parce que malheureusement on n'est pas tous devins, et même très peu d'entre nous, je pense. Donc quand on est dans le futur, de la même manière, on n'est pas dans l'instant présent. Or, le seul moment qu'on peut vivre et qu'on ne vivra jamais, c'est l'instant présent. Le futur, on ne vivra jamais, de toute façon, il est toujours après. Le passé, on ne vivra jamais, de toute façon, il est terminé. Donc, il est vraiment important de se concentrer sur cet instant présent. Voilà. Et ça permet d'éviter ça. Je pense que tous les cinq, je dois parler un peu à tout le monde. On est au travail et là, on se met à penser à, voilà, alors, être dans son lit ou ce que je vais faire à manger ou à quelle heure j'ai mon rendez-vous chez le médecin ou le pédiatre. Et puis, quand je suis à la maison, je me couche et là, oh, qu'est-ce que j'ai à faire demain? Est-ce que quelqu'un n'a jamais vécu ça? C'est bien ce que je pensais, c'est ça, résume assez bien la situation. Pas de questions, tu vois bien. Voilà, alors, les bénéfices de la pleine conscience, on en a plusieurs sortes, je vais vous parler de ceux sur le plan personnel, il y a des bénéfices sur la santé, donc là qui sont validés par les expériences scientifiques, et puis il y a des bénéfices aussi dans le cadre professionnel. Pour le plan personnel, on a des effets qui sont de plusieurs ordres. Et déjà, il y a ceux qu'on va expérimenter tout de suite quand on pratique, dès qu'on commence à pratiquer la pleine conscience, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que alors déjà, on va apprécier de manière significative l'instant présent. Et souvent, on ne se rend pas compte à quel point, des fois, je ne sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé de dire « j'ai eu une journée pourrie ». Avant, je disais « j'ai eu une journée pourrie ». Et depuis, je ne peux plus dire ça. Parce que une journée pourrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu un événement qui m'a beaucoup contrarié par rapport à toutes les autres petites choses. Mais après, si je fais le détail de ma journée, si je suis en pleine conscience, je vais me rendre compte que quand je suis sortie de chez moi, il y avait les oiseaux qui chantaient et que ça a été un moment agréable pour mon oreille, qu'il y a eu un rayon de soleil, que la boulangère m'a fait un sourire et que c'était plutôt agréable, que j'ai eu une conversation sympa avec mon collègue devant la machine à café. Et donc, on a tous ces micro-moments qui nous paraissent, je dirais, normales face à des choses qu'on va juger un peu plus grosses et qui, du coup, passent totalement inaperçues. Alors que quand on est dans l'instant présent, on va apprécier tous ces petits moments à cette juste valeur. Et du coup, on va réintroduire un peu de légèreté dans le quotidien. Et de là, du coup, on va très rapidement, avec la pratique de la pleine conscience, avoir une réduction du stress. Alors moi, depuis que j'enseigne, moi je le connaissais à titre personnel, depuis que j'enseigne, je le vois sur les participants. J'enseigne sur un cycle de 8 semaines, donc les gens viennent une fois par semaine, et souvent, ceux qui viennent sont quand même des gens assez stressés. Et la première séance, le stress, vraiment, je le vois, il sort de partout. Ils ont du mal à rester en place, je vois au regard, etc., qu'il y a une agitation intérieure. Et au fur et à mesure, à chaque séance, je vois les effets des gens qui sont de plus en plus posés. Et à la fin des 8 semaines, c'est impressionnant le changement sur les participants. Moi, c'est vraiment quelque chose, depuis que j'enseigne, qui, je crois, me marque encore plus parce que j'avais pu expérimenter à titre personnel. Et on a une régulation des émotions, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans cette impulsivité et ces émotions qui vont vous submerger et vous faire réagir de manière trop spontanée, parfois. Alors, je ne dis pas que la spontanéité, c'est pas bien, hein, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais il y a des fois où, avant de réagir, c'est bien de pouvoir se poser. Et c'est vrai qu'avec la pleine conscience, on apprend à détecter les émotions souvent avant même qu'elles ne soient intellectualisées, parce que le corps bien souvent donne des signaux d'alerte. On a le ventre qui serre, la gorge qui se noue, le cœur qui bat plus vite. Enfin, les émotions déclenchent tout un tas de choses sur le corps. Et quand on est en pleine conscience, on apprend à détecter et à être à l'écoute de ses sensations. Et donc, du coup, on va pouvoir différer un peu la manière dont on va réagir. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est plus facile parce que face aux incertitudes, on sait que on va avoir un petit peu de temps. Et c'est la même chose pour les difficultés. Ce petit laps de temps qu'on va créer va vraiment aider à réagir différemment. Alors après, des effets dont on ne s'aperçoit pas forcément tout de suite, mais qui sont vraiment notés et validés là aussi, c'est l'amélioration des capacités de concentration. Ça, c'est quelque chose qui est validé, puisque ce sont des exercices d'attention, donc forcément, on va l'améliorer. Et avec ces capacités de concentration, on va améliorer la mémoire, parce que c'est sûr que quand on est concentré sur ce qu'on fait, la mémoire est bien meilleure que si on fait quelque chose en pensant à une autre. Du coup, on va aussi développer une écoute de soi et des autres, parce que cette pratique de la pleine conscience et toutes les formations donnent de la place, justement, aux autres. Et puis, on va avoir, avec ces changements déjà annoncés, une amélioration de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et ça, c'est vraiment important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas forcément bien. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la pleine conscience, je me suis même rendu compte à quel point, finalement, je ne m'aimais pas beaucoup. Et au-delà de ça, peut-être même surtout, j'étais pas très sympa avec moi. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand j'étais tombé un truc, je me disais, mais qu'est-ce que tu es vraiment idiote, vraiment. Enfin, tout en temps, voilà, je pouvais me parler comme ça de manière pas forcément très sympathique. Et depuis que je pratique la pleine conscience, ben, j'ai arrêté tous ces petits jugements, justement, qui sont pas positifs et qui, finalement, ne contribuent pas à ce qu'on se sente bien et à ce qu'on ait confiance en soi. Et du coup, avec tout ça, ben, beaucoup plus de joie au quotidien. Et ça, c'est vraiment... Moi, je fais un questionnaire à la fin des formations et tout le monde répond plus à la question sur la joie. Parce que quand on a ce niveau de stress, quand on profite de tous les instants présents et donc de tous les bons instants présents, parce que l'esprit a tendance, de manière naturelle, à plutôt se focaliser sur les mauvais, donc quand on lui apprend à se focaliser sur les bons, et ben, au global, on se rend compte que on a peut-être des vies plus sympas que ce qu'on croyait et on est beaucoup plus heureux. Enfin, après, il y a aussi des bénéfices sur la santé. Alors là, je vous ai mis une belle image, enfin bon, c'est pas si belle que ça d'ailleurs, et qu'on va pas du tout travailler comme les médecins, parce que je vous avoue franchement, la médecine, j'y connais toujours rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que grâce aux IRM, on peut brancher des gens qui méditent et des gens qui méditent pas, et on constate que vraiment sur le cerveau, il y a une différence énorme entre quelqu'un qui débute et puis quelqu'un au bout de 10 minutes. Et de la même manière, quand on prend les cerveaux, alors il y a Mathieu Ricard, que vous avez peut-être déjà vu à la télé, et qui se prête à beaucoup d'expérimentations, parce que c'est quelqu'un qui médite énormément, et lui, clairement, par exemple, a un cerveau qui est très différent de quelqu'un qui médite pas. Et on s'est aperçu, alors sans rentrer dans les détails médicaux, mais qu'il y a des inflammations au niveau du cerveau qui peuvent après générer des tas de problèmes physiques qui disparaissent avec la méditation. Et l'année dernière, c'était en février 2016, il y a une étude médicale qui est sortie sur Alzheimer. C'est un sujet qui me touche parce que moi j'ai un parent qui est concerné. Et il semblerait que le fait de méditer active des zones du cerveau sur lesquelles se mettent ces fichues plaques qui empêchent après les neurones de se connecter. Et la méditation pourrait peut-être être un moyen de prévenir, en activant ces zones, justement, cette maladie. Donc, on est encore au début des recherches hein, sur ce genre de sujet, mais il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes et qui sont à surveiller sur le sujet. Alors après, plus simplement, des choses dont on se rend compte très vite, c'est l'amélioration du sommeil. Enfin, je crois que c'est vraiment tous les participants constate qu'effectivement il y a une qualité de sommeil qui est meilleure, et pour certains c'est aussi le nombre d'heures, parce que moi j'ai vu arriver des gens qui dormaient très, très 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 peu et qui à la fin de la formation avaient retrouvé un sommeil de qualité et surtout plus long, et on sait que le sommeil c'est important pour aller bien. Un autre sujet c'est tout ce qui est douleur. Et ça, c'est étonnant, la réduction du ressenti de la douleur et une tolérance à la douleur chronique. Et alors moi, j'ai vraiment expérimenté, parce que comme ça, ça paraîtrait, et j'ai voulu même expérience. Moi, j'ai pas de douleur chronique, j'ai de la chance, mais par contre, il m'arrive de faire des crises de prise. Je sais pas s'il y en a d'autres qui en ont fait ici. C'est juste qui est extrêmement douloureux. Généralement, quand on a ça, on est juste plié en deux et on attend avec impatience l'arrivée du médecin. Bon, moi, je n'ai pas échappé à ça, j'en ai eu une, j'attendais avec impatience l'arrivée du médecin. Et j'ai pratiqué la pleine conscience, j'ai posé ma conscience sur la douleur, ce qui m'a permis de la circonscrire et donc de la supporter mieux. La douleur était toujours là, mais je la vivais différemment. À tel point que quand le médecin est arrivé, il a commencé à me dire « Non, mais ne faites pas une crise de colique néphratique, parce que quand on fait une crise de colique néphratique, on n'est pas comme ça. » Et là, je lui dis « Non, mais attendez, c'est ma quatrième, donc je vous assure, ça, qu'une. » Donc, bon, j'insiste, on discute un peu. Il finit par me faire la piqûre, qui me permet enfin de souffler, d'arrêter de me concentrer sur ma douleur. Et là-dessus, je vais faire une écho, et j'avais effectivement un caillou d'un centimètre et demi. Donc, voilà, et c'est pour vraiment vous dire à quel point, effectivement, ça peut permettre de gérer cette douleur Et après, j'en ai parlé avec le médecin, et je pense que j'ai fait un adepte. Il était étonné de voir à quel point j'avais pu gérer une douleur que je n'avais pas gérée les années précédentes. Voilà. Donc vraiment quelque chose qui est très très efficace là-dessus, et qui est aussi également efficace sur la tolérance à la douleur. Alors, une chose, hein, ça réduit pas la douleur. Ça réduit les perceptions et la façon dont on la vit. Et alors après, à plus long terme, on s'aperçoit, et là ce sont les études médicales qui montrent quand même un renforcement du système immunitaire. Les gens qui méditent sont moins souvent malades que ceux qui ne méditent pas, qui ne pratiquent pas la pleine conscience. On a une amélioration du système cardiovasculaire parce que le stress, une fois qu'il est réduit, là aussi, on fait baisser la pression artérielle. Donc avec l'amélioration du système cardiovasculaire, on a toutes les maladies qui malheureusement sont plus en plus courantes. Qui vont être réduites. Et puis, ce qui a été le premier sujet d'étude pour la pratique de la pleine conscience, c'est la rechute des dépressions. La première étude qu'ils avaient faite au CFM, ils avaient fait trois groupes. Il y avait un groupe de personnes, et ils ont fait ça sur 5 ans. Il y avait un groupe de personnes qui acceptaient de pratiquer la pleine conscience, donc quotidiennement pendant 5 ans. Il y a un deuxième groupe qui a pris des antidépresseurs pour éviter la rechute, hein, parce que c'est un bon moyen. Et puis il y a un troisième groupe qui a pris un placebo. Et au bout de 5 ans, les résultats de l'analyse ont montré que les gens qui avaient pris un placebo avaient rechuté à 80%. Donc avec uniquement 20% de personnes qui n'avaient pas rechuté. Les gens qui prenaient les antidépresseurs, c'était exactement l'inverse. On avait 80% des gens qui n'avaient pas rechuté et 20% qui malheureusement avaient quand même rechuté malgré le médicament. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui pratiquaient la pleine conscience ont eu exactement les mêmes résultats que les gens qui prenaient l'antidépresseur, à savoir que 80% des gens n'avaient pas rechuté, alors que 20%, comme pour le médicament, avaient rechuté. Donc ça, voilà, depuis, il y a eu tout un tas d'études qui ont corroboré ces données, et c'est comme ça qu'on sait que vraiment, pour les gens qui ont expérimenté la dépression une fois dans leur vie, et malheureusement, il y en a de plus en plus, on sait qu'il y a des risques de rechute, et c'est vrai que la pratique de la pleine conscience, ben, c'est peut-être un moyen d'éviter la solution allopathique, après chacun a choisi, mais si on n'a pas envie de prendre des médicaments sur le long terme, la pratique de la pleine conscience est vraiment quelque chose qui est tout à fait indiqué, et que d'ailleurs, de nombreux psychiatres préconisent leurs patients. Alors, Christophe André, tout à l'heure, on en parlait, c'est la personne qui a, on va dire, rendu célèbre, enfin pas encore assez, mais en tout cas qui a introduit vraiment la notion de pleine conscience et de mindfulness en France. Il est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, donc il s'occupe essentiellement lui aussi de dépression, et je crois que c'est lui-même un grand dépressif. Et donc, il va beaucoup mieux depuis qu'il pratique la pleine conscience. Et comme il en était convaincu pour lui-même, il l'a introduit dans son service. Et du coup, maintenant, c'est vraiment quelqu'un qui porte cette parole sur la pleine conscience. Et j'aime bien cette phrase, la pleine conscience, je l'ai dit pour les gens qui sont sur LinkedIn. Ah non, ils voient le PowerPoint. Bon, alors c'est la pleine conscience permet de distinguer l'urgent de l'important. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui permet de prendre du recul et donc d'évaluer peut-être un peu mieux ce qui est urgent. Ce qui est moins, ce qui est important, ce qui est moins. Sur les effets sur la santé, tout ça, c'est pas de. Ah non, c'est pas un bon sens. Alors les bénéfices sur le plan professionnel, ben, c'est vrai que si on va mieux à titre perso, si on est plus détendu, ben, forcément, ça va se ressentir dans le milieu professionnel. Et si les entreprises font pratiquer, enfin, permettent de pratiquer la pleine conscience à leurs salariés, c'est aussi parce que ça rejaillit sur l'ensemble de l'entreprise et que ça a des bienfaits pour tout le monde. Donc on est vraiment dans un échange gagnant-gagnant, puisque on a noté qu'il y avait un développement de la qualité de présence, et on sait que notamment pour les managers, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir une qualité de présence. On a une amélioration de la clarté et de la pensée et une augmentation de la créativité. Alors ça, je ne saurais pas vous expliquer médicalement pourquoi ni comment, mais enfin, moi, j'ai vraiment constaté, et tous les gens qui pratiquent ont cette idée-là aussi, c'est vrai que quand on supprime le stress, quand on supprime toutes ces choses parasites, du coup, la pensée peut s'éclaircir. C'est un peu comme un lac. Si on agite le fond du lac, on a une eau qui est trouble. Et si on laisse tout retomber, on a une eau qui est plus claire. Bah, dans le cerveau, c'est un peu la même chose. Et du coup, on a une meilleure capacité à prendre du recul, on affronte plus facilement les situations, et puis on a du coup une meilleure pertinence dans les choix et des prises de décision qui sont plus faciles parce qu'on ne se pose pas 50 000 questions, parce qu'on y va plus sereinement. Donc c'est vrai que pour les entreprises, c'est un vrai plus d'avoir des collaborateurs qui vont avoir ces facultés de recul et ces capacités de faire des choix et de prendre des décisions sereinement. À son plan professionnel, après on a aussi tout ce qui est effet sur le groupe. Parce qu'à partir du moment où on pratique la pleine conscience et qu'on n'est plus dans le jugement, on pratique la bienveillance et du coup on a une communication interpersonnelle et des relations aux autres qui sont facilitées. Et dans un groupe, on imagine bien tout l'intérêt que ça peut avoir. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que pour tout ce qui est capacité managériale, ça a un intérêt absolument certain, et de manière à avoir des équipes qui fonctionnent vraiment mieux. Et de la même manière, je vous disais que dans les écoles, les instituteurs trouvaient que l'ambiance était meilleure, mais dans l'entreprise, ça marche exactement de la même manière. Et j'aime bien ce résumé de Bénédicte Lepère, c'est la DRH de Sodexo. Et voilà, elle nous dit que la pleine conscience renforce la capacité à se connaître, plus patient, moins dans le jugement. Je me dis que c'est bien, parce qu'en fait, ça résume bien ce que j'ai dit avant, la sérénité, le calme aide à prendre de meilleures décisions. Et c'est quelqu'un qui expérimente également la pleine conscience. Parce que si elle l'a fait rentrer dans l'entreprise, c'est parce qu'elle-même était une pratiquante. Voilà, mais tout ça c'est bien. Et là, j'ai repris une phrase de Mathieu Ricard. Je parle vite parce que j'ai pas trop de temps, mais on est bien dedans. Donc j'aime bien cette phrase, tout ça, c'est la pleine conscience, c'est pas une affaire de mots, mais de pratique. Il ne sert à rien de lire maintes et maintes fois le menu d'un restaurant. Ce qui compte, c'est de se mettre à table. Donc moi, je ne vais pas goûter à la cuisine, mais par contre, on va faire une petite expérience. Je vous propose d'expérimenter ce qu'est la pratique de la pleine conscience. Parce que là, pour l'instant, je vous ai raconté à quoi ça sert. Alors après, comment ça se pratique, on parle beaucoup de méditation. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer justement pour casser un peu les idées qu'on peut avoir sur la méditation, sachant qu'après, la pleine conscience, ça se pratique aussi au travers de mouvements de yoga notamment, ça se pratique dans la marche. Et puis, ça peut se pratiquer au quotidien. Moi, je pratique la pleine conscience sous ma douche, en brossant les dents, et puis dans ma voiture, de plus en plus. Donc, si vous voulez bien, on va faire une petite expérience. Voilà, et je vous propose donc de vous asseoir. Si c'est possible, avec les pieds au sol le plus possible, d'avoir le dos droit, pas forcément le dos appuyé au siège, d'être droit dans une position qui est digne. Une position digne. Voilà. Et puis soit vous posez les mains sur les cuisses, soit vous les croisez, vous les mettez. Il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vous soyez confortable. Et puis après, vous pouvez fermer les yeux, ou alors si ça vous dérange de les fermer, vous pouvez juste regarder vers le sol pour ne pas avoir d'objets ou quoi que ce soit qui vient déranger votre exercice. Et donc on va faire ce petit exercice de pleine conscience ensemble. Et donc pour commencer, si vous êtes bien assis, si vous êtes confortable, on va commencer par poser l'attention sur tous les points de contact du corps avec la chaise dans un premier temps. Donc peut-être vous sentez vos fesses, vos cuisses, contact avec la chaise. Essayez de poser votre attention juste à cet endroit-là. Et puis vous pouvez aussi ensuite la poser sur vos pieds. Est-ce que vous sentez le sol sur vos pieds? Peut-être le contact avec vos chaussures. Il s'agit juste de constater ce qui est. On va pas se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est confortable. Non, juste qu'est-ce que je ressens à cet endroit-là. On peut aussi, toujours par rapport au corps, peut-être poser notre attention sur la chaleur.
c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt frais? Moi, je sais qu'on est dans cette salle, mais il y a des gens sur Lyon qui éprouvent peut-être des sensations différentes des nôtres. Et donc là aussi, on pose juste notre attention sur cette sensation et on en prend note, tout simplement. Et puis on peut aussi poser notre attention sur éventuellement des points de tension. On fait un rapide balayage du corps. Est-ce qu'il y a des endroits où on a mal? On a une douleur quelque part, une tension. Et de la même manière, on l'a fait pour les points de contact, par exemple. On va poser votre attention sur cette douleur et juste la regarder, juste en prendre note. Alors, au fur et à mesure de l'exercice, vous allez avoir des pensées qui vont survenir, qui vont vous entraîner ailleurs, qui vont vous faire oublier ce que je dis. Et puis à un moment, vous allez vous en rendre compte et vous allez revenir à ce que je suis en train de dire. Eh bien, cette absence et ce retour, c'est exactement l'objectif de cet exercice. Donc à chaque fois que ça vous arrive, vous ramenez doucement et fermement, mais toujours avec bienveillance, sans s'autocritiquer, on ramène simplement l'attention sur le point qu'on a choisi, donc là par exemple sur s'il y a une douleur ou une tension quelque part, ou sur la chaleur, ou sur un point de contact, on ramène son attention, tout simplement. On va à présent poser notre attention quelques instants sur notre esprit. Comment est l'esprit là maintenant? Est-ce qu'il est plutôt agité? Est-ce qu'il est plutôt calme? Est-ce qu'il est plutôt triste ou plutôt joyeux? Ou peut-être neutre? On va juste en prendre note, constater ce qui est sans chercher à rien changer. On va à présent déplacer notre attention et la poser sur notre respiration. Et pour commencer, on peut la poser sur les narines et sur l'air qui rentre et qui sort. Peut-être que si on est très attentif, on peut même sentir que l'air est plus froid et plus chaud, selon qu'il entre ou selon qu'il sort. Plus froid quand on inspire et plus chaud quand on expire. Pour ensuite déplacer l'attention en continuant sur le flux de la respiration et la poser sur la poitrine, sur la cage thoracique qui se soulève et qui se rabaisse au fur et à mesure des inspirations et des expirations. De nouveau, vous avez peut-être des pensées qui ont surgi. Si c'est le cas, on peut les remercier d'être apparues parce que ça vous permet de réaliser l'exercice et de reprendre l'attention, toujours avec douceur, et de la ramener de nouveau sur cette respiration au niveau de la poitrine. Et on va continuer ensuite, on va descendre jusqu'au ventre. Et peut-être que vous allez remarquer que le ventre se gonfle et se déconfle. Elle inspire et elle expire. Ou peut-être pas. Mais là aussi, on ne va rien chercher à changer. La respiration, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. On respire de la naissance jusqu'à la mort, mais on n'a pas besoin de se poser de questions, ni d'intervenir sur cette respiration. Donc là, c'est pareil, on n'intervient pas, on pose juste l'attention sur ce qui est, et on en prend note, on constate, sans jugement. À présent, je vous propose de choisir votre propre point où vous sentez la respiration avec le plus d'évidence. Ce point est différent pour chacun. Ça peut être les narines, ça peut être la gorge, ça peut être la cage thoracique ou le ventre. Et vous choisissez ce point. Si jamais vous ne sentez pas l'endroit où c'est le plus évident, vous en choisissez un arbitrairement. Et vous allez y déposer votre respiration pendant quelques instants. Vous portez l'attention sur le rythme de l'air qui rentre et qui sort par le passage de l'air à ce point que vous avez choisi, ou ce point où ça vous semble le plus évident. Et si votre esprit s'est évadé derrière une pensée qui est passée par là, encore une fois, vous le ramenez sur la respiration. Des pensées, on en a à peu près 50 000 par jour. Donc vous imaginez bien, ça ne va pas s'arrêter. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et donc ces pensées, vous pouvez les regarder passer un peu comme si elles étaient des nuages sur le ciel de votre conscience. Et vous les laissez passer et vous ramenez l'attention encore et encore. Et si votre esprit s'en va 50 ou 100 fois, vous pourrez le ramener 50 ou 100 fois. Sachant que c'est là même le cœur de l'exercice. Cette pratique de l'attention, un peu comme si on essayait de la muscler. Puis progressivement, on va, si vous le voulez bien, passer de ce point où la respiration était plus évidente, à la respiration du corps dans son ensemble. Et on pose pendant quelques instants notre attention sur le corps qui est en mouvement avec la respiration. Avec chaque inspiration et chaque expiration. Puis quand vous le souhaitez, vous pouvez commencer à bouger les pieds, à peut-être bouger un peu les mains, ouvrir les yeux et mettre un terme à l'exercice. Alors, bien de pratiquer 10 minutes de pleine conscience. Qu'est-ce que... Maintenant, c'est vous qui allez travailler. Moi, ça fait presque une heure que je parle. Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous êtes tous endormis?
Une échappée intérieure.
Une échappée intérieure. Plutôt.
Échappée dans le sens plus préoccupation immédiate.
focus ici.
Sur l'instant présent. D'autres. Ça vous a paru plus court hein? Oui. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends toujours. Et quand on fait des exercices après, pendant la formation, on arrive à la fin jusqu'à 45 minutes. Et j'annonce pas le temps non plus, pas plus que je l'ai annoncé là, parce que si on dit 45 minutes, là, les pensées, elles arrivent. Oh là là, mon Dieu, 45 minutes, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Non, non. Donc je vous dis rien. Et puis quand je dis qu'on a fait 45 minutes, là aussi, des réactions très étonnées. Mais c'est pour ça que là, j'avais pas dit 10 minutes, parce que 10 minutes, on s'est dit 10 minutes, les yeux fermés, la première fois. Qu'est-ce que je fais pendant 10 minutes? Petit bambou qui fait la même chose, tout à fait. Et ben voilà. c'est vraiment un petit bambou et je pense une des meilleures applications de pratique de pleine conscience. C'est un super support pour effectivement les gens qui pratiquent. Vous appréciez du coup? Ouais. Ah oui, mais les enfants sont très très friands. Parce que c'est vrai que ce que vous décriviez, cet échappé intérieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens et les enfants l'apprécient énormément. C'est des gens pour qui ça a été désagréable?
Parce qu'on est déjà assez fatigué.
C'est difficile de faire. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Parce que les gens qui sont sur Link entendent un brouhaha et ils n'entendent pas forcément les gens qui. Pardon,
oui, donc là.
On me dit oui, on entend beaucoup.
Oui, donc là, quelqu'un me disait que quand on était fatigué, c'était difficile de le faire assis et quelqu'un précisait qu'il pensait peut-être même avoir fait une micro-sieste. C'est vrai que moi, dans les formations, on a notamment des exercices comme ça qui sont allongés et là, il n'est pas rare qu'on entende quelques ronflements, un coup à droite, un coup à gauche et il nous est tous arrivé de nous endormir. Mais si on dort, c'est qu'on en a besoin, donc c'est pas un problème non plus. Et quand le corps a fini sa micro-sieste, il revient. Et c'est pas un problème, donc dans tous les cas, si ça doit se faire là, c'est qu'il y avait un besoin. Et puis ça veut dire aussi que voilà, qu'on a lâché toutes les défenses, on a déposé quelque chose, et donc ça permet de se détendre. Après, l'objectif, c'est pas de s'endormir, hein, mais c'est vrai que je vous parlais qu'après, il y a une meilleure qualité de sommeil, donc.
d'autres observations sur cet exercice? Plus léger à la fin?
Ouais. Ben oui, parce que peut-être que le poids des soucis pendant 10 minutes, c'est un peu élevé et du coup, ça permet effectivement de sentir plus léger. Donc vous imaginez, vous avez fait là un petit exercice de 10 minutes, voilà, vous n'étiez pas forcément préparé à ça, et je pense que vous avez tous noté, enfin, j'espère, sinon vous pouvez le dire, qu'il y avait quelque chose, voilà, quelque chose qui se passe. Et donc vous imaginez quand on pratique tous les jours, moi pour vous donner une idée, je pratique entre 20 minutes et 45 minutes tous les jours. Donc c'est vrai que les effets, ben, c'est ça, multiplier par nombre de minutes et par nombre de jours. On a essayé de calculer une fois avec un collègue, on n'est pas arrivé au bout du nombre d'heures de méditation qu'on a commencé à avoir. C'est trop impressionnant, on a arrêté, on s'est dit qu'on allait sentir trop vieux tout d'un coup. Ah, je voudrais changer de slide. Bon, alors je vais quand même vous dire le slide suivant, si je ne me trompe pas, c'est un slide qui parle des formations à pleine conscience, donc vite fait, il y a une formation qui s'appelle le MBSR, ça veut dire Mindfulness Based Stress Reduction. Donc c'est un protocole qui a été développé par Kabat-Zinn au CFM. Voilà, je sais pas pourquoi ça s'est tout décalé, c'est très bizarre. Je pense que c'est... Alors, je vous le dis, mais ne répétez pas, j'ai un Mac, et du coup, j'ai converti de Mac à PC, et je crois qu'il y a des choses qui ont un peu bougé, donc je suis vraiment confuse. Voilà, donc c'est une formation qui se fait sur 8 semaines, à raison de 2h30 par séance, donc une fois par semaine, et il y a une journée entière également, et c'est vraiment une formation. 8 semaines parce que on s'est rendu compte qu'il fallait 8 semaines pour que le cerveau s'habitue et prenne de nouvelles habitudes, vraiment. Donc c'est le temps nécessaire à un changement de mode de fonctionnement. Après il y a une autre formation qui s'appelle les outils de la pleine conscience. En fait c'est la formation sur 8 semaines qui est regroupée en 5 jours pour les gens qui se disent sur les semaines, je ne vais pas y arriver. Moi, je trouve que c'est une formation qui est bien, plutôt si on veut le refaire. Parce que les 8 semaines, comme je disais, c'est vrai qu'elles sont, utiles à la mise en place de la pratique. Et puis après, on fait des formations qui sont adaptées dans les entreprises. Donc, il y a des formations qui se font sous forme de séminaires, sous forme d'ateliers, sous forme de formations également étalées sur plusieurs semaines. Sachant qu'après, tout dépend de la pratique de chacun. C'est comme tous les résultats que je vous ai présentés, ces résultats-là, évidemment, on ne peut les obtenir que si on pratique. C'est vraiment la pratique régulière. C'est exactement comme n'importe quel autre sport. Là, c'est un sport cérébral. C'est comme si vous faites des abdos. Si vous avez la machine et que vous la regardez, vous n'avez pas d'abdominaux. Bah, la pleine conscience, c'est pareil. Vous pouvez lire plein de livres, mais si vous ne pratiquez pas, vous n'aurez pas les bénéfices de la méthode. Alors, il y a d'autres outils. Donc, la pratique de la pleine conscience sous cette forme-là, c'est ce qu'on pratique le plus. Moi, je fais au moins 20 minutes tous les jours. Mais après, on n'est pas que sur le souffle. Hein. Après, on peut poser son attention. On peut avoir une pratique sur les sons, on peut pratiquer aussi sur les pensées, choisir de pratiquer sur les émotions. Donc après, il y a plein de sujets. Hein. On n'est pas que... je ne répète pas en boucle ce que je viens de vous dire. C'est un peu fastidieux. Après, il y a des exercices qui sont allongés, qu'on appelle le scan corporel, où on passe en revue tout le corps. Et ça, c'est un exercice qui est hyper puissant, qu'on comprend au début, et qui est vraiment très, très efficace pour apaiser et pour rentrer dans la pleine conscience. Il y a ce que je disais, des exercices de yoga, qu'on pratique aussi en pleine conscience. Donc, l'objectif, c'est pas de s'assouplir, même si au bout du compte, on finit par s'assouplir, mais l'objectif, c'est de le faire en pleine conscience, pour ressentir très précisément ce qui se passe à chaque fois qu'on bouge un membre, à chaque fois qu'on respire dans un mouvement. Et puis, il y a des exercices de marche également, où on va marcher en posant l'attention sur tout ce qui se passe dans le corps quand on marche, le déplacement du poids du corps, etc. On se rend compte que marcher, c'est devenu habituel, mais c'est pas pour rien si les enfants mettent au moins un an à marcher. C'est quelque chose qui est super compliqué. Et quand on détaille le mouvement et quand on est en pleine conscience, on se rend compte à quel point notre corps il fait des prouesses tous les jours. Donc voilà, et puis après ce que je vous disais, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est pratique informelle. Donc poser sa conscience sur quelque chose qu'on est en train de faire. Je suis en train de faire ma vaisselle, poser ma conscience sur les mouvements, sur la texture de la mousse. Ce sont des exercices de pleine conscience également. Et tous ces exercices permettent d'habituer l'esprit à être dans l'instant présent.
C'est vraiment la même analogie avec les abdos. Si vous faites des exercices d'abdos réguliers,
vous avez
les abdos activités, vous avez les abdos.
Exactement.
D'accord. Donc, même si la pratique reste limitée sur des périodes données du temps, en fait, après, il y a quand même un gain sur l'ensemble de...
Ah, mais de toute façon, même si vous me disiez, moi, je pourrais méditer 3 heures par jour, mais toute ma vie, je veux dire, mais surtout, peut-être. Parce que, effectivement, quoi qu'on fasse, de toute façon, il y a toujours un minimum de bénéfices derrière. Donc, ce qui est important, c'est effectivement cette régularité. Alors après, ça n'empêche pas qu'il y ait un jour, on peut faire une pause, de la même manière qu'on ne va pas faire des abdos forcément tous les jours. Mais c'est vrai que c'est une gymnastique de l'esprit. Donc c'est vraiment très comparable à ce qu'on peut faire avec le corps. Et les effets dépendent vraiment de la pratique. Ça, c'est certain. Et moi, je l'ai vu chez mes participants, sur les 8 semaines. Il y a des gens qui, effectivement, pratiquent tous les jours, parce que pendant les 8 semaines, on donne des exercices tous les jours. Ceux qui les font, progressent dans la pratique très vite et obtiennent des bénéfices très vite. Et ceux qui exercent entre les deux séances ont des bénéfices qui sont bien moindres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande effectivement une volonté.
Voilà, oui, sur le alors, là, il y a quelqu'un qui me demande, qui dit...
En fait, la sophrologue qui vient, elle fait de la pleine conscience.
C'est ça, c'est ça. Alors, la différence avec la sophrologie, c'est que... Alors déjà, c'est deux disciplines différentes parce que... Parce qu'il y en a une qui a été expérimentée en université de médecine et l'autre, alors je connais pas très bien la sophrologie, et l'autre qui vient plus, je pense, de pays asiatique, je suis pas sûre. Mais ce dont je suis sûre, c'est que l'objectif n'est pas du tout le même, et c'est ça qui fait toute la différence. L'objectif de la sophrologie, c'est la relaxation dans l'instant présent. Donc c'est vraiment se relaxer au moment où on le fait. La pratique de la pleine conscience, c'est quelque chose qui dure dans le temps. L'objectif, c'est pas la relaxation, l'objectif, c'est la réduction du stress. Et avec la réduction du stress, tout ce qu'on a déroulé tout à l'heure. Donc les objectifs sont vraiment différents, et c'est ce qui fait la différence entre la sophrologie, qui est une méthode de relaxation ponctuelle, je ne sais pas si c'est efficace, hein, je ne sais pas si vous avez fait un peu. Voilà. Et alors après, il y a des sophrologues qui peuvent aussi utiliser des techniques de pleine conscience. Bon, j'ai une collègue qui à la base était sophrologue, qui est devenue enseignante de pleine conscience et qui mixe des deux. Mais la différence, c'est que la sophrologie, vous faites, et on ne vous dit pas chez vous, vous rentrez et vous travaillez tous les jours. En pleine conscience, on vous fait travailler, et en plus, on vous dit chez vous, vous allez travailler tous les jours. Et en plus, vous le faites.
Est-ce qu'on peut parler?
Oui, je voudrais parler plus fort, s'il vous plaît. Voulez-vous vous rapprocher? Comme ça, vous serez plus près de la pierre, c'est ça le nom? Plus près de la pierre.
On peut se refuser une conscience à quel endroit? C'est-à-dire qu'on doit se refuser de penser à autre chose, mais qu'à cet endroit-là?
Alors, on ne se refuse pas de penser à autre chose, on pose la conscience sur une sensation. Moi, par exemple, là, pendant que je vous parlais, parce que j'ai pratiqué l'exercice avec vous, hein, parce que sinon, j'arrive pas, et moi, j'ai mal au pied. Donc, moi, j'ai posé ma conscience sur ma douleur au pied. Puis, pendant ce temps-là, ben, j'avais des idées qui passaient, d'abord parce qu'il fallait les gérer, mais je peux avoir les idées qui passent parce que, tiens, en fait, tout à l'heure, il faut que je fasse ça. Et donc, l'esprit vagabonde. Et à ce moment-là, je me rends compte. Il y a un moment où je me rends compte que je suis en train de penser à autre chose. Et donc, du coup, je ramène mon attention sur ma douleur au pied. Et puis je vais respirer tranquillement en posant mon attention, je la regarde, sans prendre, je la constate. Et puis il y a une autre pensée qui va arriver. Et puis ça va repartir, et puis je vais la ramener. Et c'est ça la pratique.
D'accord.
C'est plus clair?
Oui.
Merci.
Une idée du temps de pratique par rapport au temps de gain derrière. Ouais. Comment on se sent.
Alors, des cours, des stages,
l'objectif des enfin, tout ce qui est méditation, l'objectif c'est de rester 24 heures. C'est vraiment, petit à petit, c'est dur. Dans un état méditatif, 24 heures.
Un état méditatif, 24 heures. Alors après, c'est pour ça, moi j'utilise très peu le mot méditation. Parce que quand on parle de méditation, des sortes de méditation, je pense qu'il y en a une trentaine. Et il y a des méditations qui sont très connues, comme la méditation transcendantale. Après, il y en a d'autres dont je ne connais pas les noms. Mais la différence, la pratique de la pleine conscience, c'est qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification de la conscience. Alors que les autres pratiques de méditation, il y a la conscience est modifiée, et elle est modifiée volontairement. Donc c'est pour ça que c'est très différent, et c'est pour ça que le mot méditation m'ennuie toujours un peu. Non, parce que... Non, mais je voulais... faire ce petit aparté sur le mot, parce que je crois que c'est important de bien se dire qu'on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas là pour réfléchir, etc. Donc, du coup, je suis enchantée.
En fait, c'est le temps de pratique par rapport.
Oui, bah, le temps de pratique.
Le temps de bénéfice, quoi.
Alors, au début, quand on démarre, pour mettre les choses en place, on demande de pratiquer 45 minutes, et je pense qu'en delà de 20, on a du mal à avoir vraiment des résultats. Donc ça, c'est pendant 8 semaines. Et puis après, la poursuite de la pratique, je pense que, dans l'absolu, je pense que si on fait 10 minutes par jour, j'aimerais bien avoir un sentiment là-dessus, c'est vrai que moi, comme je m'occupe beaucoup, je pense que si on fait 10 minutes par jour, on doit pouvoir maintenir un état de pleine conscience qui permet de se sentir bien. Mais après, je pense que spontanément, on va adapter sa pratique aux événements. Moi, par exemple, quand j'ai des événements qui sont j'ai beaucoup de choses à faire. Plus j'ai de choses à faire dans la journée, plus je médite avant de commencer ma journée. Donc, je me lève un peu plus tôt, parce que je me dis que si je perds un quart d'heure de sommeil, ça ne va pas changer ma journée. Par contre, je sais que ce quart d'heure de méditation de plus, lui, va vraiment changer ma journée. Moi, ma première formation, quand j'ai donné ma première formation, c'était quand même un jour important, donc j'étais pas stressée, mais j'avais plein de choses à préparer. Et ce jour-là, moi, j'avais ma mère qui rentrait en maison de retraite. Donc, vous voyez, tout ça le même jour. Et là, je me suis dit, ouais, ça va être une journée, Et ben d'habitude, je fais 45 minutes, j'ai fait 1h30 de méditation ce jour-là. Et on pourrait se dire, mais c'est complètement dingue, elle a pris 1h30. Je n'ai jamais été aussi efficace. Et du coup, je peux vous dire que depuis, j'ai reproduit, c'était la première fois que je faisais ça aussi longtemps, mais j'avais vraiment le sentiment que pour faire face, j'avais besoin. Donc je pense qu'après, on adapte sa pratique à ses besoins, puis à sa personnalité. Il y a des gens qui auront peut-être plus besoin que d'autres pour atteindre le même résultat. Mais l'intérêt aussi de la pleine conscience, c'est qu'on se connaît mieux. Donc je pense qu'on sait après plus facilement ce qui est bien pour soi, dont on a besoin. C'est aussi ça l'intérêt, c'est la meilleure connaissance qu'on peut avoir de soi et la meilleure écoute de ses besoins. J'ai répondu ?
Oui.
Ah bien oui, mais pour petit bambou, c'est quelque chose pour donner envie aux gens, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Ah, ça m'est arrivé, si j'ai 5 minutes, je sais pas, avant un rendez-vous, il peut m'arriver de me mettre petit bambou. Alors moi, j'ai plutôt des choses en anglais, parce que comme j'ai beaucoup appris en anglais, j'aime bien les entendre dans ma langue d'apprentissage. Mais c'est très agréable de se faire 3 minutes avec quelqu'un qui parle, qui a un timbre de voix agréable. C'est super utile. Et justement, faire des petits temps comme ça de méditation entre deux, c'est surtout pas sans plus. Ça fait partie d'un ensemble.
Et à mon avis, il ne faut pas vouloir commencer trop. C'est-à-dire,
non, on fait 45 minutes. Hein.
45 minutes et tous les jours, ça peut décourager. Et, alors, petit bambou, je connais. Et ce que je trouve pas mal, c'est que voilà, on peut découvrir des choses. Soit, hein, c'est, après, c'est des expériences très personnelles qui donnent peut-être envie justement de passer un peu plus longtemps. Vous avez sur YouTube des tonnes de méditations guidées sur la peur, avec des gens différents. Faut pas se mettre un des pièges. C'est de se dire, voilà, alors à partir de demain, je fais ça 45 minutes tous les jours, etc. Parce qu'alors le jour où on ne peut pas le faire, une horrible culpabilité, soit on peut lâcher.
Juste le bémol, c'est que quand on commence à prendre conscience, une des choses qu'on enseigne, c'est que justement, il ne faut pas culpabiliser. Quand le jour où on ne peut pas le faire.
Non, mais je suis d'accord, mais ça, c'est un apprentissage. Donc je pense qu'effectivement, moi je le dis en tant que personne. qui est testé, je pense qu'il faut peut-être pas mettre la barre trop haut.
De toute façon, 45 minutes, si on n'est pas dans le cadre d'une formation avec un accompagnement, je pense que c'est difficile. Donc, on le fait dans le cadre des formations, mais parce que là, on est là volontairement pour le faire, et puis parce qu'il y a effectivement un encadrement, des exercices guidés, etc. Sinon, 45 minutes, c'est...
Oui, mais après, il y a plein de CD, plein de livres, etc.
Ah,
c'est
oui.
Pour ça que je pense à ça, parce que je veux dire, on peut tomber là-dessus, c'est-à-dire, bon, allez, je vais suivre le programme.
Ouais, je trouve que c'est très difficile tout seul. Alors c'est vrai que moi je l'ai conseillé à des amis qui n'avaient pas accès à des cours en présentiel et donc je leur ai conseillé de le faire en distance parce qu'on peut même trouver le MBSR en vidéo et vraiment j'ai été très déçue parce que les effets ne sont pas du tout ceux qu'on peut avoir en présentiel parce que quand on fait la formation il y a beaucoup d'échanges et de ces échanges il y a un enrichissement qui est vraiment presque 40% de la formation. C'est hyper important et c'est vrai que quand on le fait tout seul, je trouve qu'on perd toute cette richesse, on perd aussi cet échange avec l'enseignant et en fait les résultats, moi pour l'instant je suis assez déçue et pourtant c'est moi qui l'ai conseillé. J'aimerais bien qu'on passe juste à la dernière slide. C'était juste pour voir. Non, ça se passe pas. Je clique en pleine conscience. Oui. Voilà. Et donc cette table à gel qui résume ce que je viens de vous dire, que j'aime beaucoup. Et vous assure pour méditer 20 minutes tous les jours, donc c'est ce qu'on préconise en Asie. À moins que vous ne soyez trop occupé. Voilà. Dans ce cas-là, il faut vous asseoir une heure. Donc, pour l'avoir mis en pratique, je peux vous dire que ça marche pas vraiment bien. Voilà, je vous remercie. La présentation est terminée. J'ai débordé un tout petit peu, mais on n'a pas pensé les questions. Non.
J'ai une petite question pour finir.
Oui.
Pourquoi le terme pleine conscience, et notamment conscience, est-il un rapport à inconscient ?
Alors non, il n'y a pas de rapport avec l'inconscient, parce que chez les Américains, l'inconscient, c'est pas une notion qui est très très développée, c'est plus une notion qui a été développée en Europe avec la psychanalyse. Pleine conscience, parce que c'est être pleinement conscient de ce qui se passe.
Alors, pourquoi je pose la question, c'est auto-hypnose, en fait, c'est quelque chose qui est proche de...
Auto-hypnose. D'accord, oui.
Donc, ça a l'air d'être assez proche de ce que vous racontez. Il y a le côté conscient, inconscient, l'auto-hypnose, en fait, c'est en pleine conscience, si je prends bien, de travailler sur l'inconscient.
Oui, mais c'est un travail sur autre chose, alors que la pratique de la pleine conscience, c'est être dans l'instant présent. Donc on ne travaille pas sur ce qui se passe à l'intérieur, on ne travaille pas sur des pensées, on ne travaille pas sur l'inconscient. On travaille.
C'est pour ça que je
voilà, non, c'est pour ça que ça s'appelle pleine conscience, parce que vraiment, c'est être pleinement conscient de ce qui se passe là maintenant. Il n'y a aucune modification de la conscience. Il n'y a aucune modification de la réalité, de ce qu'on vit. C'est vraiment juste être là et le constater. Rien de plus.
Ça aurait tout s'appeler
sur une pleine présence. Tout à fait. D'accord. Ouais, mais c'est vrai, hein, mais on s'interroge souvent sur le mot employé. Moi, j'ai des collègues qui utilisent le terme de méditation de pleine conscience. Je trouve que c'est très réducteur parce que dans la pratique de la pleine conscience, il y a des tas d'autres exercices que la méditation. Et la méditation, il y a toujours une connotation quand on connaît pas, qui me semble pas forcément très positive. Et c'est vrai que pleine conscience, parce que c'est la traduction de mindfulness. Donc voilà, traduire les mots américains, pas toujours très heureux. Donc je propose des stages, tout à fait, oui d'ailleurs j'aurais pu vous mettre, j'ai un site internet, mais je pense que si vous demandez à Emmanuel, elle vous communiquera, et effectivement je propose des stages de 8 semaines régulièrement, donc sur Bordeaux, si vous avez envie d'aller plus loin, vous êtes les bienvenus évidemment.
Alors, il y a d'autres questions
oui,
sur LinkedIn.
Merci à vous, hein, merci de votre attention, merci d'avoir participé au pied levé à cet exercice.
Enfin, voilà, je pense qu'on va clôturer ici ce moment passé ensemble. Merci d'être venu.
Et maintenant, merci aux gens qui étaient sur Link également.
Exactement. Voilà,
merci
à vous également. Merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi.
Merci.
À bientôt.